Ok, je pense qu'on est bon, on peut reprendre. Alors, le prochain exposé, c'est Vivien Féasson qui va nous faire jeu de rôle, jeu de récit. Voilà.
Voilà, alors du coup, comme vous voyez, le titre a très légèrement évolué depuis la proposition, ce qui arrive régulièrement quand on commence à chercher. J'ai essayé de rester à peu près dans la même logique, donc je n'ai pas osé trop y toucher. Du coup, ce sera plutôt jeu de rôle, jeu d'histoire, avec un S pour bien faire la différence, pour ne pas entretenir une confusion avec un jeu qui serait lié à l'histoire, avec un grand H, et plus particulièrement le cas des story games. Donc c'est plutôt la branche, on va dire, engagement, on va dire, qui m'intéresse ici, et à savoir l'engagement vis-à-vis de l'histoire qui est racontée à travers la partie de jeu de rôle. Et je vais commencer dès à présent par une citation légèrement polémique et un peu longue, à savoir donc, les événements d'une partie de jeu de rôle ne peuvent être dits appartenir à une histoire, ce sont des happenings. Les jeux d'histoire ne sont donc pas des jeux de rôle, et aucune personne s'intéressant à l'histoire ne devrait avoir le droit de dire qu'elle fait du jeu de rôle. Aucun jeu de rôle n'a la moindre chose à voir avec l'histoire, ou les histoires, ou les récits, ou quoi que ce soit d'autre. Nous devons éliminer toute référence au mot « histoire » de nos jeux de rôle. L'histoire ne doit plus être autorisée à nous souiller. Alors, c'est une citation donc, d'un blogueur qui se fait appeler RPG Pundit et qui évolue essentiellement en fait, dans la mouvance Old School Renaissance qui vise, bon, très très grossièrement, parce que je ne suis pas là pour parler de l'OSR, mais à faire revivre une branche du jeu de rôle liée à Donjons et Dragons qui aurait été injustement, on va dire, spoliée au fil du temps, on va dire, par justement ce que RPG Pundit appelle les story gamers ou qualifié aussi de porcs. C'est vous dire à quel point il est. Voilà. Ce que ça relève néanmoins, c'est, et je ne m'étendrai pas trop dessus, mais ça reste intéressant à évoquer, c'est la véritable guerre finalement de forums qui a lieu en Amérique à ce niveau-là, entre tenants finalement du story game ou du jeu de rôle un petit peu ambitieux, et tenants, on va dire, plutôt d'un jeu de rôle plus axé sur le game, sur le play, enfin sur justement le jeu lui-même, et moins sur l'histoire. Ce qui m'intéresse ici plutôt, c'est justement ce terme story game, ce qu'il peut désigner, ce qu'il désigne. Est-ce qu'il s'agit finalement essentiellement d'une espèce d'insulte qu'on utiliserait pour qualifier tous les jeux qui ne sont pas les jeux qu'on apprécie, sachant que des personnes qualifiées donc de poor story gamer par RPG Pundit ont eux-mêmes leur propre mouton noir inféodé à l'histoire qu'ils qualifieraient par exemple de machine à saucisse. Merci. Voilà. Donc, quelque part, on peut se demander à ce stade-là si on n'est pas toujours le story gamer de quelqu'un, en quelque sorte. Ou s'agit-il plutôt d'un véritable mouvement cohérent qui serait né il y a une vingtaine d'années avec le forum The Forge ? Ou est-ce qu'il s'agit, comme le dit Zach Smith, qui est un autre, on va dire, théoricien du mouvement OSR, d'un rassemblement d'une espèce de communauté de goût, rassemblée notamment autour d'un forum qui s'appelle justement Story Games ? Et qui est en quelque sorte une émanation de The Forge. Voilà. Pour ma part, en adoptant une approche légèrement chronologique, on va dire, j'ai dégagé trois branches principales qui me paraissent être autant de candidats, on va dire, au story game, en quelque sorte. Avant ça, je vais revenir donc juste sur le terme story game et une analyse rapide, finalement, de ce qu'il peut suggérer. Donc, j'ai choisi de traduire par jeu d'histoire, par opposition à jeu de rôle, du coup, et qui serait, a priori, et c'est quelque chose qu'on retrouve à peu près dans toutes les branches, un jeu dont les parties ont pour but essentiel de raconter une histoire sous la forme d'un récit essentiellement oral. Alors, j'ai mis essentiellement, parce qu'évidemment, dans un jeu de rôle, c'est un petit peu plus compliqué, on ne se contente pas de parler, on a aussi des feuilles de personnages, des dés, etc. Mais bon, l'essentiel est quand même basé sur ce qui est dit autour de la table. La représentation des événements doit faire preuve d'une certaine qualité et qui n'aurait pas justement à avoir honte devant d'autres médiums qui, eux, seraient qualifiés pour raconter une histoire, comme les romans, le cinéma, etc. Donc, bon, globalement, je ne vais pas rentrer dans la question de qu'est-ce qu'une bonne histoire, puisqu'il y a un milliard de définitions, mais bon, on retrouve des idées comme une progression dramatique, avec des choix de plus en plus signifiants, menant vers un climax, donc une fin, on va dire, provoquant des changements irréversibles et dramatiques. Souvent, on trouve aussi l'idée d'un thème unificateur, c'est notamment ce qu'on retrouve dans le livre Story du gourou scénaristique, on va dire, Robert McKee. L'idée, quelque part, qu'il doit y avoir une grande idée, une espèce de message qui doit être transmis, plus ou moins ouvert, par le créateur. On a aussi, et c'est plus important peut-être dans le cadre du jeu de rôle, une idée de fluidité, C'est-à-dire que dans un jeu de rôle, on pourrait dégager une histoire, mais il y a toutes sortes de scories, on va dire, qui viennent la polluer, les discussions entre joueurs, les apartés, les jets de dés, etc., etc. Voilà. Donc l'idée, quelque part, c'est pour les story gamers, c'est de produire une histoire qui est le moins, justement, d'impureté, entre guillemets, là-dedans. Donc, j'aborde la première branche, donc le story game comme histoire imposée. Et je commence, on va dire, relativement loin par Donjons et Dragons. Très rapidement, donc, entre 74 et 78, on a les sorties donc, de plusieurs versions de Donjons et Dragons, la version Holmes, la Advanced Donjons et Dragons. Toutes, à peu près, se basent sur l'idée qu'on est là pour faire appel à son imagination, mais par le biais, on va dire, d'un aspect relativement concret, c'est-à-dire, par exemple, des définitions extrêmement précises du cadre de jeu, l'utilisation de cartes, de plans, enfin, tout concorde pour créer une espèce de, on pourrait dire, de simulacre de réalité dans lequel viendraient explorer les joueurs. Ça n'empêche pas, néanmoins, d'y trouver déjà des conseils sur la dramatisation des descriptions, l'incarnation des personnages et des personnages non-joueurs par le maître de donjon, pardon. On y trouve des injonctions comme « devenez Falstaff le guerrier » et pas simplement « pousser une figurine et affronter des monstres ». On nous conseille aussi de donner un passé à l'univers, de lui donner une espèce d'aspect concret, mais tout ça reste inféodé à un aspect, on va dire, exploratoire et tactique, c'est-à-dire que le bon groupe de joueurs est clairement celui qui sait vaincre les obstacles et qui sait aussi s'enfuir quand c'est nécessaire, ce qui n'est pas vraiment une préoccupation, on va dire, d'un jeu qui voudrait plutôt produire une histoire. Donc, d'après Paul Mason, en tout cas, les premiers ouvrages de théorie rôliste parlent évidemment d'aspects tactiques et wargame, mais aussi d'immersion, de roleplay, etc. Reste que l'immersion n'est pas forcément directement synonyme d'histoire. Pour trouver justement un exemple véritablement d'incursion dans l'histoire, il faut se tourner vers, en 1984, vers ce qu'on appelle les modules Dragonlance, donc, qui seraient, c'est pas forcément les premiers, mais en tout cas c'est parmi les plus connus, en tout cas, à imposer l'histoire quelque part, et ce qui vaut à cette série de modules justement d'être accusé en quelque sorte d'avoir fait entrer, on va dire, le loup dans la bergerie du jeu de rôle et d'avoir corrompu pour des années et des années, on va dire, le jeu de rôle. Donc Dragonlance, qu'est-ce que c'est? Donc en 1984, donc TSR, qui est l'éditeur de Donjons et Dragons, engage, on va dire, Tracy Hickman pour produire une série de modules. Alors il y a plusieurs raisons derrière cette histoire, mais en tout cas, le projet finit par être double, puisqu'il sort en parallèle d'une série de romans publiée par le département littérature de TSR. Dès le premier module, donc le DL1, Dragon du désespoir, on trouve déjà l'idée qu'on est là pour raconter une histoire. Le maître du donjon, hein, décidément, adopte ici en fait une posture de narrateur donc, qu'on pourrait qualifier d'homodiégétique, c'est-à-dire appartenant finalement au monde de l'histoire. C'est pas juste une personne extérieure, c'est Astinus, gardien des traditions du monde, qui est là en quelque sorte pour être le témoin finalement des événements incroyables qui vont avoir lieu dans la série de modules. On y trouve aussi des prétirés avec un passif extrêmement chargé, une psychologie relativement complexe. Alors on pense par exemple à Tanis, le demi-elfe, qui est pris entre le monde des elfes, le monde des humains, son amour dans le monde des elfes, son amour dans le monde des humains. Voilà, on a plusieurs personnages comme ça qui ont des relations interpersonnelles assez développées, qui ont des objectifs complexes et dont, en quelque sorte, l'arc narratif va trouver à s'incarner dans les modules eux-mêmes. On trouve aussi, si on retrouve le principe d'exploration libre d'hexagone avec une carte un peu comme dans un module classique, on découvre aussi à la lecture, c'est en fait l'apparition de ce qu'on pourrait qualifierait dans un jeu vidéo de murs invisibles, c'est-à-dire de zones où si vous pouvez y aller, rien n'a l'air de vous l'interdire, mais quand vous y retrouvez, vous vous trouvez face à une armée composée d'ennemis infinis qui continue à vous tomber dessus jusqu'à ce que enfin vous décidiez d'aller dans la bonne direction, celle du scénario. Dans le deuxième module, donc Dragon de Flamme, alors ici c'est la version française qui comporte les deux, on trouve aussi d'autres conseils. Donc on a d'abord un résumé littéraire finalement des aventures des personnages sur un mode, on va dire, justement littéraire, épique, etc. Mais aussi on trouve des conseils pour gérer l'éventualité de la mort de personnages importants, que ce soit, alors, moins pour les personnages joueurs que pour les personnages non joueurs, notamment. Donc on imagine que si les joueurs tuent un des personnages principaux qui doit mourir beaucoup plus tard dans un moment extrêmement dramatique, bien le conseil, c'est très simplement cacher le corps Et comme ça, vous pourrez le faire revenir avec une excuse plus ou moins bien sentie, et comme ça, pas de problème. On trouve aussi le principe dirigiste de personnages qui doivent être capturés, donc tous les hexagones sur lesquels ils peuvent aller conduisent à une capture jusqu'à ce qu'enfin ils soient capturés, rencontrent là leurs nouveaux alliés, etc., etc., et que ça déclenche de nouveaux événements. Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire qui est créée du coup par la partie devient très proche en fait de l'histoire qui est suggérée par les modules, mais aussi très proche de l'histoire qui est racontée par les romans eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un lecteur des romans discutant avec un joueur finalement des modules et se retrouvant des points communs et ayant l'impression de parler de la même histoire, comme on pourrait imaginer un spectateur des films par exemple Harry Potter discutant avec un lecteur des romans Harry Potter et trouvant finalement des terrains d'entente alors même qu'ils n'ont pas été confrontés au même médium. Voilà. Donc, le cas Dragonlance est quelque part extrême et n'a pas toujours été très suivi. La plupart des jeux de rôle, traditionnels, pour utiliser un terme utilisé par The Forge notamment, suivent plutôt une espèce d'équilibre un petit peu instable entre défis à surmonter, incarnation de personnages et exploration, on va dire, d'un univers et histoire à raconter. Alors, j'ai pris seulement deux exemples parmi la multitude d'exemples possibles. Désolé, ça c'était ce que je viens de dire. Donc RunQuest propose en fait, décrit le jeu comme un jeu de développement de personnages simulant le processus que l'on appelle vie, où on jouerait comme dans une pièce de théâtre radiophonique improvisée, dont le but premier serait de s'amuser, où on créerait des aventuriers pour jouer à travers des scénarios dans lesquels un arbitre nous opposerait des pièges et des monstres, où il n'y aurait néanmoins pas de victoire possible, à moins de tenir compte de critères de réussite précis, où il n'y aurait pas de perdants non plus, à part ceux dont le personnage meurt, et encore, après tout, une mort héroïque, c'est peut-être pas si mal, ça peut être un objectif en soi. Voilà, donc on a comme ça plusieurs directions qui partent un petit peu dans tous les sens. J'ai pris un exemple, du coup, français, avec Hurlement de Jean-Luc et Valérie Bizian, qui déclare que le MJ est là pour créer une situation problème que les joueurs devront résoudre en combinant différents talents de leur personnage. Le plaisir, lui, sera celui de voir un personnage prendre vie, le jeu de rôle offrant évasion, rêve commun éveillé, aventure permanente, dans une partie d'échecs vivant où l'imagination est la reine et les esprits créatifs les rois. Donc on a comme ça quelques marqueurs finalement divers de défis, incarnations, histoires à raconter, etc. Et la plupart des jeux regroupent ça finalement derrière une appellation un petit peu déclinée à l'infini qui serait « Venez vivre une aventure ». Qui regrouperait finalement ces trois tendances en un. On a plusieurs jeux qui néanmoins commencent à mettre en avant plutôt l'idée de raconter une histoire, et j'en ai choisi un qui serait le plus emblématique, même si d'autres existent et n'est pas forcément le premier. Jérôme Larrey tout à l'heure parlait de Prince Vaillant notamment. Il s'agit de Vampire, Vampire la Mascarade, donc en 1991 par Mark Reinhagen, qui se présente non pas comme un jeu de rôle, mais comme un storytelling game. C'est-à-dire, en français, il me semble que ça a été traduit par « jeu de l'art du conteur ». Donc le conteur, quelque part, on dépasse finalement simplement le jeu, on a une espèce de combinaison comme ça. Alors je n'ai pas eu accès à la première édition, mais je pense qu'elle est assez proche de la deuxième en anglais, qui évoque la tradition orale du conte, et qui en gros part sur un laïus sur le fait que nous avons perdu finalement notre rapport avec le conte, nous sommes devenus des spectateurs passifs, et nous avons perdu le lien finalement avec les légendes d'antan, la mythologie, et qui se propose finalement de faire ramener finalement ces légendes dans nos foyers et de nous permettre de nous en emparer, quoi. Le storyteller, donc le conteur, lui, est là pour raconter une histoire, la créer, pour le plus grand amusement des autres, donc des joueurs. Les joueurs, eux, alors je vais peut-être cette fois mettre mon slide qui raconte ce que je dis, donc les joueurs, eux, sont des acteurs, mais en même temps sont censés être là quelque part pour jouer comme pour gagner finalement, mais en restant inféodés à l'histoire. Donc on voit qu'on n'est pas complètement en rupture par rapport à ce qu'il y a eu avant. On a aussi le principe, donc, quelque part, de la règle d'or, dont on a beaucoup parlé. La règle d'or qui décrète que la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. L'imagination et le storytelling, donc la narration, l'art du conteur, en fait, seuls sont capables de rendre la beauté et la complexité, finalement, d'une histoire ou du monde réel. Donc on s'éloigne quelque part, là, par contre, de l'idée de simulation par l'empilement des règles, finalement, d'une quelconque réalité. Bon, on peut se dire que ce n'est pas nouveau, puisque après tout, dès Donjons et Dragons, on avait l'idée que le meneur de jeu et le groupe de joueurs pouvaient créer des règles en fonction des besoins, pouvaient en oublier certaines, etc. Ce qui change, je pense, ici, c'est qu'on fait cela au nom non pas du jeu et du plaisir ou du fait qu'il manque une règle à un moment donné, mais au nom de l'histoire elle-même. On a une espèce de renversement hiérarchique, en fait, On passe de jeu, incarnation, histoire à plutôt histoire, incarnation, jeu. L'incarnation étant toujours un petit peu au milieu, une espèce de point de communication comme ça. Donc, qu'est-ce qu'un jeu à histoire imposée ? Un jeu, c'est quelque part un jeu de rôle traditionnel, donc encore au sens de The Forge, c'est-à-dire tel qu'on l'imagine, un meneur de jeu, des joueurs, généralement un scénario qui soit est préconçu avant l'aventure et soumis ensuite aux joueurs, soit en quelque sorte guidé par un meneur de jeu qui l'improvise au fur et à mesure de la partie, et dont les règles ont pour but quelque part de permettre en fait de symboliser quelque part les compétences des personnages, de permettre aux joueurs justement de relever ces défis, etc. Donc on pense en quelque sorte à hauteur de personnage et à hauteur de ses compétences à l'intérieur même du monde qui est décrit. Ce dispositif n'est pas en soi dirigiste, mais il permet justement ce dirigisme de l'histoire, notamment par la toute-puissance justement du meneur de jeu. Les jeux vraiment dirigistes sont donc, à mon avis, extrêmement rares. Par contre, on pourrait parler peut-être davantage de scénario dirigiste ou de table, enfin de meneur de jeu dirigiste davantage. En général, comme je disais, les jeux de rôle ont plutôt tendance à prôner, on va dire, l'éparpillement dans les trois directions, ce qui est parfois difficile à tenir et ce qui peut pousser effectivement certaines tables à adopter une tendance plutôt qu'une autre. Je ne parlerai pas de la GNS, donc ludisme, narrativisme, simulationnisme ici, mais bon, c'est clairement ce à quoi je pense à ce moment-là. Donc on a l'intervention très forte du meneur de jeu, qu'il soit aidé ou non des règles, qu'il soit aidé ou non d'un scénario préconstruit. Ce qui m'intéresse, c'est de faire le rapport finalement avec la scène aussi nordique finalement, et notamment le mouvement, alors je ne sais pas si on peut qualifier ça de mouvement ou d'école, en tout cas Gypform, qui est apparu dans les années 2000 et qui va encore plus loin dans cette logique, puisque généralement quand on commence à parler en jeu de rôle de dirigisme, d'imposer aux joueurs une histoire, etc., on commence à voir une levée de bouclier en disant non, les joueurs, il faut qu'ils aient leur agentivité, il faut qu'ils puissent influer sur l'histoire, sinon bah, le meneur de jeu, il n'a qu'à écrire un roman, à ce moment-là, ce n'est pas la peine. Le mouvement Gypform, lui, carrément, prend le contre-pied de cette théorie et assume finalement le dirigisme pleinement. Donc l'histoire, pour lui, doit être racontée avant tout, mais doit néanmoins impliquer les joueurs qui doivent être conscients finalement de ce qu'on leur propose. Donc il faut que l'histoire fasse un sens. Donc là, on revient sur l'idée du thème directeur, de l'idée unificatrice. Elle doit être visible par tous, ce qui est une gageure en grandeur nature, encore plus qu'en jeu de rôle. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve de transparence. Tout le monde doit savoir quel est le personnage finalement des autres pour pouvoir réagir en conséquence et tisser finalement une histoire satisfaisante. On a l'idée de télégraphier finalement ses intentions, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit clair sur ce qu'on veut mettre en place vis-à-vis des autres joueurs pour qu'eux aussi puissent s'en emparer et pas les prendre par surprise, leur dire « Ah oui, mais si j'avais fait ça, en fait, c'est parce que je voulais que mon personnage il fasse ça plus tard, etc. » Non, il faut que ce soit clair, sinon c'est pas possible, on crée l'histoire, on dirige l'histoire à plusieurs. On peut aussi pratiquer des monologues pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que l'histoire qui est à l'intérieur de votre tête ne nous intéresse pas, c'est l'histoire qui est racontée qui nous intéresse et qui doit être partagée. Et j'ai pris deux exemples, notamment de systèmes mis en place, justement, de mécaniques, en fait, quelque part, mises en place pour favoriser cela. Donc, il y a le Superman System qui consiste à préconstruire le début et la fin de la partie. C'est-à-dire, voilà, au début, vous arrivez, par exemple, vous deux, vous êtes un couple qui pensait à vous séparer, et à la fin de l'histoire, bah, vous vous séparez. Donc, vous faites ce que vous voulez entre les deux, mais à la fin, il faut que ce soit comme ça. Et le fate play qui consiste à donner aux personnages en fait, des réactions programmées réagissant à certains stimuli pendant la partie. C'est-à-dire que si à un tel moment, pendant la partie, tel joueur se met à péter les plombs, ben, toi, à ce moment-là, tu le suis et tu te mets à péter les plombs aussi. Ou, enfin, bon, voilà, ce genre de choses. Donc on a comme ça des espèces de programmations au vu et au su des joueurs qui ensuite s'en emparent et auxquels ils donnent en quelque sorte la chair finalement pour concevoir l'histoire, mais ça reste quand même relativement dirigiste et imposé finalement en quelque sorte d'en haut. Alors, voilà à peu près ce qu'est... Alors j'ai l'impression d'avoir qu'il y a un slide qui a disparu entre temps, bon c'est pas grave, c'est pas très important. On a quelques autres jeux qui... On trouvera plein d'autres jeux en fait qui inséreront des petits mécanismes allant vers l'histoire, mais n'allant pas jusque-là néanmoins. On peut penser, par exemple, au principe simple des points de destin dans un jeu de rôle traditionnel qui consiste justement à éviter que, sur un simple jet de dés, bah, finalement, l'histoire soit foutue en l'air. On n'imagine pas... Très rarement, on va dire que dans un récit un peu épique, le héros meurt au bout de 5 minutes parce que, j'allais dire, il a glissé sur une peau de banane. Ça arrive rarement en jeu de rôle, mais l'idée est là, quoi. En tout cas, se faire descendre par le premier gobelin venu, ça pourrirait l'histoire et quelque part, c'est ce qui est reproché. J'en arrive donc à ma deuxième branche, à savoir le story game, en quelque sorte, comme une création, finalement, sous contrainte, en tout cas, en cadre restreint. Voilà. Tout ça est inspiré, en fait, par ce qu'on pourrait appeler le paradoxe de l'histoire, et ce qui a été déjà pas mal cité, le truc impossible avant le petit déjeuner, donc, qui coïncide, en gros, avec la fondation du Forum The Forge, par Clinton Ernickson et Ron Edwards. Donc le truc impossible avant le petit déjeuner, ça provient d'une discussion sur ce forum qui affirme que ce que prétendent proposer la plupart des jeux de rôle, c'est-à-dire un meneur de jeu qui arrive avec une histoire à proposer à ses joueurs pour les distraire et des joueurs qui en même temps sont responsables des actions des personnages, est incompatible. On ne peut pas avoir les deux. Cela produit ce qu'il qualifie d'illusionnisme et de participationnisme, qui serait la différence entre quelque sorte la manipulation mentale et l'esclavagisme volontaire. C'est-à-dire, soit les joueurs se font complètement abominer par le meneur de jeu et ont l'impression d'être libres, soit ils ont bien conscience de ne pas l'être et ils acceptent. Bon. Cela fait écho à des considérations qu'on retrouve aussi dans le jeu de rôle, parce que dans le jeu vidéo aussi, il y a une guerre entre narratologue et ludologue, en fait, et qu'on retrouve notamment dans les propos de Greg Costikian et de Jesper Jules, qui affirment en quelque sorte que histoire et jeu sont incompatibles. C'est-à-dire que si on commence à développer un aspect, on le fait au détriment de l'autre, et du coup, bah, on amenuise finalement la puissance globale finalement de chacune des méthodes. Notamment donc pour Greg Costikian, même si donc on va voir qu'il a un petit peu évolué sur la question, quelque part, raconter une histoire, c'est quelque chose de linéaire, avec un point de vue unidimensionnel, travaillé, optimisé, magnifié, etc. Donc si on commence à proposer deux versions de l'histoire, ben, il y en aura forcément au moins une qui sera moins bonne. Si on en propose trois, il y en aura deux qui seront moins bonnes. Si on en propose une infinité, comme dans un jeu de rôle, ben, il y aura une infinité d'échecs et une solution possible qui sera évidemment, a priori, pas celle qu'on aura choisie. Donc on y perd quelque part, on se retrouve juste avec une histoire de moins bonne qualité. Néanmoins, Greg Costikian est un peu revenu sur le cas du jeu de rôle, puisque le jeu de rôle propose nécessairement, quelque part, on pourrait dire, de raconter une histoire, et donc le jeu de rôle, du coup, serait quelque part inférieur, finalement, à un roman ou à un jeu qui s'assumerait pleinement. Il est un petit peu revenu plus tard, notamment prenant des exemples comme ce qu'il qualifie de jeu narrativiste, en suivant un petit peu la forge, en disant que, quelque part, puisqu'un jeu est un système de contraintes, après tout, on pourrait imaginer un système de contraintes qui aurait pour effet de dégager une histoire satisfaisante. Et il prend comme exemple, donc, My Life with Master de Paul Zégué, qui est, une des éminences, finalement, de la Forge. Donc, c'est là où on fait, où je boucle sur, justement, le jeu à contraintes. Donc, My Life with Master, si on en croit des déclarations de son auteur, dont Paul Zégué, donc en 2003. Paul Zégué décrète en fait que dans un jeu de rôle traditionnel, l'histoire n'apparaît qu'a posteriori. On pourrait comparer ça finalement à une aventure qui vous arriverait dans votre vraie vie, et le lendemain vous la racontez autour de la machine à café, et vous en faites une histoire, mais sur le moment ça n'en était pas une. C'était juste un événement. Le jeu de rôle traditionnel serait pareil, vous viviez des choses, etc., un peu comme dans une espèce de réalité parallèle, et puis ensuite, vous extrayez ça, vous dégagez tout ce qui la pollue, et vous en faites une belle histoire à raconter pour dire combien c'était chouette. Lui, ce que veut Paul Zégué, c'est offrir une histoire dès la partie elle-même, et pas a posteriori, notamment en dégageant toutes les scories dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple le fait de la possibilité pour les protagonistes de mourir comme ça de manière absurde, ou de se concentrer uniquement sur des défis à accomplir, etc. Lui, donc, il déclare vouloir offrir un protagonisme présumé, donc de base, voilà, je vous promets un protagonisme dans cette histoire, et pas un protagonisme mérité, à savoir, bah, c'est à vous de vous battre pour que ça ressemble à quelque chose. Si vous ne faites rien, bah, vous n'aurez pas d'histoire au final. Donc je vais garder My Life with Master comme exemple, on va dire, relativement emblématique finalement du jeu forgien ou du jeu à cadre contraint, comme je disais. Donc, ce que proposent ces jeux, c'est... Alors, quelles solutions ils apportent finalement à ce paradoxe de on est là pour faire une histoire et en même temps, tout le monde peut partir dans tous les sens parce que c'est la liberté. Donc, ils proposent d'abord un cadre diégétique restreint, c'est-à-dire un univers finalement complètement cloisonné pour vous éviter de pouvoir partir dans tous les sens. Donc, cet univers est peu détaillé. est très malléable et créé sur le moment, déjà pour éviter aussi que ça vienne parasiter finalement l'exploration de l'histoire et que les gens ne commencent pas justement à partir dans tous les sens. Mais si cet univers est peu détaillé, malléable et créé sur le moment, il n'en est pas pour autant complètement libre. C'est-à-dire qu'il repose sur une structure extrêmement rigide qui correspond, elle, finalement, au thème que fixe le jeu. Dans le cas de My Life with Master, par exemple, on joue des sbires d'un maître tyrannique, souffrant terriblement intérieurement de cette relation finalement dysfonctionnelle et essayant de s'en libérer en nouant en quelque sorte des relations amoureuses plus positives. Donc ici, il n'est pas question que les joueurs au début disent « j'en ai rien à faire du maître, il m'a mal parlé, je lui mets un taquet et je m'en vais ». Ça pourrirait complètement l'histoire. L'idée, c'est qu'il reste avec le maître en se libérant petit à petit jusqu'à arriver à un final, on va dire, dramatiquement approprié où il se libère ou alors au contraire où il s'effondre. On a aussi, donc cela correspond également à un cadre mécanique restreint, pour autant qu'on puisse séparer univers et mécanique, bon ici je le fais pour des raisons de commodité. On a des règles qui sont liées au thème, c'est-à-dire rien ne doit dépasser qui ne soit prévu dans le thème, on n'est pas là pour prévoir toutes les situations possibles, mais pour rester justement dans la logique du thème. Si un joueur commence à vouloir faire autre chose, ben, soit on le règle rapidement pour s'en débarrasser, soit on lui dit ben, « écoute, t'es gentil, mais tu t'es engagé pour ce type d'histoire, pas pour autre chose ». On a aussi l'impossibilité de s'en affranchir, donc là on est complètement à l'opposé de la règle d'or qui décrète que le meneur de jeu a le droit de la changer au gré de ses caprices. Non, l'histoire s'impose au meneur de jeu, au joueur, on n'improvise pas, on reste dans ce cadre figé. On a les règles du coup qui gèrent également le rythme, puisqu'elles sont au-dessus finalement des personnes, elles gèrent également le rythme, elles gèrent également la fin généralement. Puisque la fin, justement, qui va décider de la fin, ben, ce sont les règles. Donc dans le cas de My Life Remastered, quand les joueurs atteignent un certain seuil, finalement, alors non pas de compétences, mais on va dire dans leurs caractéristiques, je ne sais plus laquelle exactement, mais genre mépris de soi, on va dire, elles finissent par déclencher la fin, et là on a une série de GD qui détermine comment ça se passe. Voilà, donc on a tout ce cadre extrêmement, on va dire, contraint, qui est là justement pour faire en sorte que, naturellement, le jeu aille vers une histoire. Ça implique néanmoins que chaque partie du même jeu soit finalement une déclinaison de la même histoire, ce qui est souvent reproché d'ailleurs aux jeux forgiens, c'est-à-dire de raconter toujours la même chose et donc d'avoir une durée de vie assez courte, tout comme guère plus longue finalement d'un film que vous regarderiez encore et encore et encore, parce qu'il raconterait toujours la même histoire, avec une légère différence évidemment, parce qu'il y a quand même finalement une part d'interactivité dans ce cadre restreint, mais on est quand même là, c'est-à-dire que vous n'allez pas raconter une aventure épique avec My Life with Master. Vous n'allez pas parler de justiciers qui vont de ville en ville pour sauver des gens si vous n'utilisez pas, si vous utilisez My Life with Master au lieu de Dogs in the Vineyard, par exemple. Voilà. On est comme ça dans un cadre assez restreint avec une thématique déclinée finalement selon la même structure. On peut la rapprocher, donc là je fais un autre rapprochement avec une autre école nordique, du coup de l'école de Turku, qui décrète que la solution en grandeur nature au paradoxe de l'histoire, donc ce fameux paradoxe, c'est de tout miser sur le point de départ, qu'ils appellent la forme. C'est-à-dire de concevoir un cadre de départ avec des personnages préconstruits, avec une intrigue décidée au début, puis de laisser les joueurs entièrement libres. À partir de ce moment-là, on n'y touche plus et on les laisse s'ébattre là-dedans. Ce qui fait que l'école de Turku voit finalement cela néanmoins comme une création artistique et quelque part une histoire, mais la création du meneur de jeu auteur, on va dire, c'est ce dispositif. On pourrait presque rapprocher ça finalement d'une espèce de dispositif artistique en fait, où l'artiste installe tout, puis ensuite il recule et c'est ensuite les visiteurs qui viennent s'en emparer, etc. Mais dans le cadre finalement établi par l'artiste lui-même. Le message finalement est dans ce point de départ qui va ensuite orienter toute l'histoire, finalement, naturellement. Quoi. Le reste, après, on n'y touche plus. Voilà, donc ça, c'est pour cette deuxième branche. On arrive du coup à la troisième branche, c'est-à-dire le story game comme narration collégiale. Donc là, pour ce point-là, donc je me base notamment sur un billet de Jérôme Larré, intitulé donc, JDR versus Story Games, qui parle ici d'un certain type de jeu qu'il qualifie de jeu narratif, justement, qui est donc sa traduction juste du coup de story game, et qui correspond à un type de jeu qu'on pourrait grosso modo faire remonter à la fin des années 90, et notamment à un jeu particulier qui n'est pas considéré comme un jeu de rôle pour, j'imagine, je pense, de bonnes raisons, Il était une fois, sorti en 1995, dont l'idée est que voilà, on a des cartes et le but c'est de raconter une histoire la plus satisfaisante possible. Non, en fait, quand on y joue, on se rend bien compte que c'est pas l'objectif. En tout cas, le but c'est de raconter un conte en dépensant ses cartes et en étant le premier à dépenser toutes ses cartes pour les mener vers une fin programmée. Il me semble que c'est ce qu'on a là sous les yeux. Ils le mangèrent au festin et c'était délicieux. Ouais, peut-être. Bon, c'est pas garanti. En tout cas, bref, on a ici une espèce d'hybride, en fait, entre raconter une histoire, faire un jeu de société avec des objectifs de victoire, ce genre de choses. Toujours est-il que parmi les créateurs de ce jeu, on a Andrew Ridston et James Wallis, qui sont aussi créateurs de Hogshead Publishing, et notamment du magazine Interactive Fantasy, qui lui-même était consacré au game design et au storytelling system, pour ce que ça peut désigner, et qui ont notamment conseillé d'utiliser le livre Impro de Keith Johnston pour améliorer ses propres parties de jeu de rôle. Donc on a quand même une passerelle entre ce jeu-là, qui n'a pas l'air comme ça d'être un jeu de rôle, et le jeu de rôle tel qu'il nous intéresse. James Wallis est d'ailleurs lui-même derrière un jeu qui s'appelle Les Aventures Extraordinaires du Baron de Munchausen, publié en 98, qui lui, par contre, pour le coup, se rapproche encore plus du jeu de rôle, puisqu'il demande à chacun d'incarner finalement une espèce de bonimenteur qui doit raconter une histoire trépidante et qui se fait interrompre régulièrement par les autres qui mettent en doute finalement ses capacités. Du coup, qu'est-ce que serait finalement un jeu narratif ? Un jeu narratif, ce serait quelque part un jeu qui propose non plus des défis tactiques ou une espèce d'expérience finalement de jeu à contrainte, mais un défi esthétique. L'idée, théoriquement, serait de raconter une belle histoire à plusieurs voix. On va dire, plutôt qu'à plusieurs mains. Les règles cessent de parler finalement de quelles sont les capacités de ton personnage, est-ce que c'est plus probable qu'il réussisse telle action ou pas, etc. Non, elles sont là pour décider de qui parle, quel joueur parle, et dans quelles conditions, quand, comment interrompre quelqu'un, par quelle mécanique. Par exemple, dans Universalis, on raconte une histoire, on a une somme de pièces de monnaie en fait, qu'on dépense pour pouvoir intervenir. Donc on les dépense pour créer des nouvelles scènes, on les dépense pour créer des nouveaux personnages, on les dépense pour interrompre quelqu'un, on les dépense pour s'emparer du personnage d'un autre et lui faire subir quelque chose. On les dépense aussi pour contredire finalement un fait qui a été amené. Alors ça peut être, généralement, je ne pense pas que ce soit fait pour dire finalement ton histoire de... comme quoi le personnage d'un tel était mort, ça ne m'intéresse pas, finalement il est vivant, mais c'est plutôt dans l'idée de « Ah mais en fait, tu croyais qu'il était mort, mais dans l'ombre, en fait, il avait planifié ça », ou alors « En fait, c'est son frère jumeau qui surgit », enfin ce genre de choses. Mais le fait qu'on ait des mises comme ça fait que justement l'idée, c'est justement d'encourager les gens, contrairement peut-être au problème de « Il était une fois » que j'ai évoqué, c'est de créer une vraie histoire bien structurée, qui soit convenable et qu'on pourrait presque quelque part finalement retranscrire au cinéma, en roman, etc. Quoi. Les personnages, la plupart du temps, deviennent des outils narratifs, voire même transmissibles, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette espèce de... on ne voit plus vraiment l'histoire à travers les yeux de son personnage, mais quelque part, on est presque plutôt en position de scénariste, et il est possible presque que son personnage, enfin presque, concrètement, que son personnage soit repris par d'autres, fasse des choses qu'on n'aurait peut-être pas voulu qu'il fasse, etc. Quoi. Donc c'est plus notre personnage, en fait. C'est le personnage de l'histoire, et nous, on est un narrateur parmi d'autres. Ça implique nécessairement une position surplombante, quelque part, des joueurs, alors plus ou moins. Et ça sous-entend, pas toujours, mais souvent, des conditions de victoire, dans la mesure où, puisqu'on n'a pas un personnage à soi, les conditions de victoire de notre personnage nous intéressent peut-être un petit peu moins, en tout cas, on est peut-être moins directement concerné. Et du coup, on peut avoir besoin, on va dire, pour que ça reste un jeu, puisque dans la plupart des définitions du jeu, le jeu est quelque chose avec un objectif, qu'on ait quelque part une condition de victoire. Mais des jeux comme Universalis ou Microscope, il me semble, même si je ne le connais pas encore par cœur, ne parlent pas vraiment d'autres conditions de victoire que le simple fait d'avoir créé une belle histoire à plusieurs. Voilà. Globalement, alors, voilà ce qu'il en est pour cette branche-là. Donc, j'ai mis donc Microscope et Universalis, donc couverture superbe. Donc, j'en arrive à ma conclusion. Du coup, tous ces jeux... proposent leur propre solution quelque part à la problématique de comment faire une histoire en jeu de rôle, alors qu'on propose à tout le monde de partir dans tous les sens et que c'est un peu la liberté et que du coup on se retrouve parfois avec une certaine frustration, c'est-à-dire que par exemple le meneur de jeu arrivait avec le Seigneur des Anneaux en tête et se retrouve finalement avec des joueurs qui n'avaient pas envie de ça et qui tabassent Gandalf à peine arrivé parce qu'il a eu le malheur de leur parler avec un petit ton supérieur ou ce genre de choses. J'exagère un peu, mais voilà, c'est quand même une des bases, un des premiers problèmes. Donc on a comme ça une espèce d'aire de famille, en fait, qui définirait le story game et qui regrouperait toutes ces branches et qui pourrait peut-être expliquer aussi le fait que les détracteurs de ce type de récit, en fait, les voient comme, bon, pour les plus, on va dire, pas fous, mais un peu délirants, comme un complot visant à s'emparer finalement du jeu de rôle et à le détourner au profit d'une intelligentsia un peu prétentieuse. Voilà, et l'arrachant finalement aux prolétaires vivant leur loisir simplement. Mais en tout cas, voilà, ça donne une espèce d'image un petit peu comme ça globale. Et il est vrai qu'il y a des passerelles existent entre les différentes branches. Je pense par exemple à Emily Kerbos qui a commencé notamment par des jeux forgiens avec, comme Breaking the Ice, avant de se tourner plutôt vers du grandeur nature, Jeep Form, type avec Remodeled ou Under My Skin, où donc les joueurs sont là avec des scènes extrêmement scriptées et dont l'idée quelque part est de vivre finalement cette histoire de l'intérieur, mais en la suivant finalement, en respectant cette histoire. Bon, je pense aussi au forum Story Games qui a été créé par des personnes qui fréquentaient le forum The Forge et qui ont ressenti le besoin d'avoir un espace d'expression, on va dire, un petit peu plus libre et peut-être avec des jeux justement peut-être un peu plus critiqués par The Forge. Ce qui permet également, parce que c'est après tout, j'ai tiré des branches par souci de, on va dire, pour un aspect pratique, mais on trouve évidemment les frontières sont poreuses, c'est-à-dire qu'on trouve des hybrides, par exemple entre jeux forgiens et jeux narratifs. Alors là, du coup, je cite donc Zombie Cinema, Inflorenza et Prosopopée pour notamment la mécanique de ce que j'appelle le spectateur actif, c'est-à-dire que ces jeux-là comprennent des mécaniques permettant à un joueur qui n'est pas dans la scène et qui normalement théoriquement ne joue pas concrètement dans un jeu de rôle, puisqu'après tout, il n'a pas de moyen d'interaction, de devenir un spectateur actif et non plus un spectateur passif, comme on conçoit naturellement le rôle de spectateur, c'est-à-dire d'influer sur l'histoire en donnant des dés à telle ou telle action pour qu'elle aille dans le sens qui l'intéresse, plutôt que dans le sens voulu par les jets de dés ou par les personnes impliquées directement. Donc on a comme ça, quelque part, un basculement encore plus tenu en compte par les mécaniques elles-mêmes. On a aussi un hybride histoire imposée, jeu narratif, avec notamment Montségur, ou Witch the Road to Lindisfarne, ou Fall of Magic, ce que j'appellerais le squelette de l'histoire, c'est-à-dire que le jeu vous dit, voilà exactement ce qui va se passer, il y a telle étape, telle étape, telle étape. Alors moi je connais plus Witch the Road to Lindisfarne, où on a un voyage qui est programmé, avec des étapes données. Chaque étape contient une suggestion de couleur, c'est-à-dire cette étape-là, bah, la tonalité, c'est plutôt dramatique. Cette étape-là, cette tonalité est plutôt dépressive. Vous ne pouvez pas... la sorcière ne peut pas s'enfuir. Si elle s'enfuit, elle sera rattrapée. Vous devez en avoir conscience. Donc la sorcière, si tu t'enfuis, tu dois accepter que les autres te rattrapent, voire même tu dois décrire comment les autres te rattrapent ou pourquoi finalement tu reviens. Voilà, donc on a comme ça cette espèce de cadre extrêmement imposé de l'extérieur. Et en même temps, les joueurs sont invités à broder dessus et à décrire, à faire des scènes, comment dire, à s'intéresser à l'aspect esthétique des scènes qu'on leur impose, en quelque sorte. Et à faire en sorte que, du coup, ça donne une histoire la plus belle possible. Voilà donc, en gros, ce qu'on pouvait dire. Alors, au départ, initialement, j'avais l'intention d'opposer finalement ce mouvement-là à celui de l'Old School Renaissance. Le problème, c'est que, comme vous pouvez le voir, donc, il faut déjà pas mal de temps pour parler du story games, donc ça aurait pris beaucoup trop de temps et ça aurait impliqué finalement de survoler tout ça de façon beaucoup trop rapide. Reste qu'il est intéressant de se dire que, et c'est notamment le point de vue de Zack Snyder, non, de Zack Smith, que le mouvement OSR en fait n'aurait pas été aussi important si le forum The Forge n'avait pas existé justement, et que quelque part ce mouvement est une forme de réaction aussi à l'encontre des théories de The Forge, justement. Donc il serait intéressant de voir s'il n'y aurait pas moyen, justement, d'opposer comme ça un jeu qui se viserait finalement avant tout à être un médium narratif, donc à créer un vecteur d'histoire, et un autre qui serait plutôt, finalement, la proposition d'un simulacre de réalité dans que les joueurs viendraient peupler finalement, et sans se soucier véritablement de donner une espèce de, comme ça, d'arc narratif à leurs actions, et plutôt de l'habiter en fait comme ils entendent, un peu à la manière de ce que j'appelle finalement un jouet de rôle en quelque sorte, ou un jeu de société de rôle, c'est-à-dire que voilà, on nous donne quelque chose et à nous de faire ce qu'on veut avec, de s'amuser avec, de triturer les boutons et de voir si finalement on peut pas en dégager quelque chose d'intéressant. Voilà. Voilà la fin de mon intervention.
Merci beaucoup. Alors, il va falloir qu'on aille manger. Ouf. Eh oui. Ça marche. Donc, le temps d'une question ou deux, et puis on continuera la discussion par petits groupes, je pense. Vas-y, Thomas.
Dans ce principe des story games que tu nous exposes, on voit que pour créer une histoire, on va opposer le script à l'émergence. Si on déplace la question, qu'est-ce que tu penses du principe de jouer pour voir ce qui va se passer, qu'on trouve notamment dans Apocalypse World, où il n'y a pas d'histoire préécrite, mais néanmoins il y a quand même cette volonté de jouer pour arriver au final à un récit qui soit palpitant et entraînant, quoi.
Le cas d'Apocalypse World est assez intéressant. Je me suis demandé un petit peu au départ où je le positionnerais. Parce que quelque part, il y a une espèce de, j'appellerais presque ça un jouet de rôle narratif, en fait, en quelque sorte, puisque à une situation donnée, finalement, on a des règles et ces règles-là nous envoient dans une direction, proposent des pistes, finalement, quelque part, d'histoire.
Tu as quand même des éléments de script, c'est ça que tu veux dire?
C'est ça, voilà. Et en même temps, ils ne se comportent pas, finalement, comme. Il n'y a pas une espèce de vision surplombante de l'histoire. Par contre, on a une espèce d'attachement micro-structurel presque à l'histoire. Presque comme des tremplins, en fait, quelque part, c'est ce qu'ils appellent les moves, quoi. C'est-à-dire qu'on est là pour propulser, finalement, dans une direction et faire quelque chose d'intéressant, systématiquement.
Mais
quoi.
Tu veux dire qu'on préserve quand même l'immersion dans le personnage?
Oui, ça, clairement, on est quand même dans l'immersion dans le personnage.
Par rapport à l'intervention précédente, qui parlait d'amener plus facilement les gens à jouer, j'ai une image de cahier de coloriage où on remplit ou de points à relier et en parallèle on a l'autre jeu de rôle qui serait une sorte de feuille blanche. Est-ce que tu penses que ce genre de jeu, ces story games, sont des tremplins justement un peu plus didactiques pour entre guillemets se mettre au jeu de rôle?
C'est une bonne question parce que je pense qu'il y a quand même un écart qui est significatif, je pense, entre les sensations qu'on retire. Alors évidemment, là, je ne parle pas des jeux plus situés à la lisière, je vais vraiment parler des extrêmes. Mais je sais qu'une des raisons pour lesquelles je m'intéresse au story game, c'est aussi le fait que je ne ressens pas les mêmes sensations quand je pratique un jeu qui s'identifie clairement à un story game et un jeu qui s'identifierait clairement plutôt à un jeu de rôle, on va dire, classique. C'est-à-dire que, du coup, il y a des passerelles. Mais ça passe par un certain nombre d'étapes, je veux dire, intermédiaires, qui font qu'on passe pas directement du cahier de coloriage à la feuille blanche, finalement, en quelque sorte. Alors, en plus, on peut pas vraiment parler de feuille blanche dans le jeu de rôle, parce que ce serait une feuille blanche où on te taperait sur les doigts quand tu vas dans le mauvais sens, par exemple, si on voulait être un peu... Vu que le cahier de coloriage peut être vu comme médisant, on pourrait trouver une... Mais il y a vraiment comme ça quelque chose, on est... Et là, je parle vraiment de story game au sens du coup de jeu narratif, la troisième branche plus particulièrement. Il y a vraiment un écart qui reste assez important en termes de sensations, finalement, quand on pratique les formes les plus extrêmes, quoi. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Pour moi, oui, tout est possible, mais au même titre, du coup, parce qu'après, on peut dire que, par exemple, regarder le film Le Seigneur des Anneaux, c'est un tremplin pour le jeu de rôle, et du coup... Tout peut servir de tremplin, finalement.
C'est parce que j'avais l'impression que dans les story games, on était un peu plus...
Guidé,
ouais. Du coup, c'était...
Oui, mais ils sont aussi plus intimidants. C'est-à-dire que dans un jeu de rôle, il y a un côté, non, t'es pas là pour raconter une belle histoire, c'est pas grave, c'est ton personnage, vas-y. T'es dans cette situation, qu'est-ce que tu fais? Du coup, c'est un peu facile, on peut se dire, ah oui, bon, d'accord, comme dans la vraie... Mais toi, t'es comme dans la vraie vie, mais dans une vie parallèle, alors que là, c'est, vas-y, raconte-moi une histoire, je te regarde, et ça va être super chouette, mais si, t'es capable de le faire, t'inquiète pas, oh, c'est formidable, et puis t'es un peu tétanisé, quoi. Vas-y, tiens, je te donne mon personnage, vas-y, fais voir ce que t'en fais. Voilà, donc quelque part, c'est guidé, mais c'est plus intimidant aussi par d'autres aspects, quoi.
En fait, je souhaiterais me mettre en faux un peu sur ce que tu dis, parce qu'il me semble que en fait, ce qu'il y a de particulier dans le style OSR, c'est que il est structuré autour de la forme du donjon, et en fait, cette forme, elle n'est pas du tout neutre. En fait, c'est pas seulement du ludisme, c'est qu'en fait, c'est déjà une structure narrative sous-jacente. Et donc, on peut pas totalement considérer qu'à cette époque-là, par exemple, il n'y avait que du ludisme, puisqu'en réalité, c'était la manière de s'assurer de la narration, d'une narration extrêmement structurée, arborescente, en fait.
Alors, bon, déjà, j'ai pas dit qu'il y avait que du ludisme. Justement, puisque dès le départ, on a cette espèce de dualité entre des défis à relever et l'incarnation d'un personnage. Donc, on est déjà, dès le départ, effectivement, on n'est pas entièrement... Enfin, c'est pas du, on n'est pas dans dans la figurine, quoi. On est là quand même pour... c'est déjà du jeu de rôle, quoi. Maintenant, effectivement, c'est vrai que je me base essentiellement sur les propos tenus justement par les défenseurs de l'OSR, notamment, qui rejettent cette idée d'histoire. Mais sans doute, l'histoire qui le rejette, c'est effectivement une histoire qui ne serait pas typique du jeu de rôle. Et peut-être que, effectivement, le donjon, avec sa forme justement un petit peu canalisante, propose une forme d'histoire que le jeu de rôle seul, ou en tout cas un jeu seul, peut proposer, et que finalement un story game avec sa vision plus, on va dire, traditionnelle, du coup, pour le coup, du récit, ou omet complètement, finalement, effectivement. Non, mais le micro, il n'aime pas.
Par rapport à l'OSR, sur la plupart des tenants actuels, justement, tout ce qui est, on va dire, la sous-branche de Hit Yourself, ou tout ce que fait Zach Smith, ce qu'au fond Patrice Stewart, des gens comme ça. Mais ils vont décrire des décors quand ils font...
Oui,
Red and Pleasant Land.
Ouais.
Oui, des choses comme ça. On est vraiment très loin du donjon. Et ça reste le RSR. Le plus revendicatif, le plus rapide. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le lien avec la porte, les aspects, c'est bien que le RSR réussit.
Oui, ben. Après, c'est vrai qu'on peut. Déjà, ensuite, un des problèmes aussi, c'est que les gens ont tendance à confondre finalement le fait de raconter une histoire et le fait de faire de l'art, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut trouver l'art du jeu de rôle aussi dans les formes de l'OSR et dans ce genre de choses. Et effectivement, Donjon, enfin, jamais. Rapidement est sorti du donjon finalement et a proposé d'autres formes. Alors après, je ne sais pas exactement comment ils pratiquent finalement, parce qu'on a des formes d'aventure en extérieur qui sont en fait des donjons déguisés avec des arbres, quoi. Des fois avec une carte, par exemple, dans Dragonlance, il y a une carte et malgré tout, on a des hexagones et chaque hexagone a un truc qui est écrit avant même la partie. Et donc les joueurs ont une certaine liberté, mais malgré tout... Après, effectivement, peut-être qu'en étudiant bien, on pourrait rapprocher effectivement cette histoire de cadre initial guidant l'histoire du cadre, finalement.
Allez, rapide.
Par rapport au donjon initial, quand tu lis des blogs sur de gens qui écrivent des donjons ou des méga-donjons, c'est extrêmement scripté. C'est des histoires qui ont des actes, qui ont un climax, parce que la liche de fin de niveau, enfin la liche qu'on doit affronter à la toute fin, elle arrive pas comme ça au détour d'un couloir. Elle est préparée, programmée, etc. Il y a les obstacles sont réfléchis pour que il y a des allers-retours, il y a des factions dans les donjons, etc., qui se mettent en place. Donc il y a un côté à la fois ouvert, parce qu'on peut explorer un peu comme on souhaite, et en même temps, il y a des systèmes de portes, il y a des systèmes de... par exemple, les premiers sorts pour respirer sous l'eau, c'est pas avant le troisième niveau, donc jusqu'au troisième niveau, on peut pas passer la zone inondée, etc. Il y a une conception du donjon qui est extrêmement écrite, et en même temps qui offre, et donc qui permet de guider une histoire et de raconter quelque chose de très structuré et qui pourrait être repris en roman, et d'ailleurs qui est repris en roman quand tu prends il y a un certain nombre de grandes sagas qui sont directement tirées d'aventures qui ont été jouées et qui ont été écrites limites avec énormément de liberté pour les joueurs et en même temps un souci de direction, quoi.
Mais là, est-ce qu'on ne retombe pas justement dans l'idée que disait Paul Zégué, c'est-à-dire lui, ce qu'il veut, c'est que l'histoire telle que tu la lis dans le roman, a posteriori, effectivement, le roman est peut-être basé, par exemple, sur un donjon qui a été fait, une aventure, une campagne, mais elle est écrite a posteriori, là où le story gamer voudrait que la belle histoire soit directement maintenant. C'est-à-dire, même si, alors pour le coup, je suis entièrement d'accord avec le fait que finalement, écrire un donjon, c'est pas juste balancer un Rubik's Cube et dire maintenant tu fais ce que tu veux. Effectivement, il y a des choses extrêmement planifiées, etc., avec une progression dramatique, c'est vrai, puisque après tout, on met le grand méchant à la fin, quoi. Sinon, ça finit très vite et c'est pas très satisfaisant. Mais l'idée, c'est que les joueurs vont pouvoir, par contre, affronter trois. Enfin, moi, en tout cas, mes expériences de Donjons et Dragons, c'est on affronte quelques ennemis, puis on va se reposer, puis on repart dans l'autre sens, puis on décide de faire ça, puis on suit le truc dans un certain ordre. Mais entre-temps, on fait tout un tas d'actions que si on les mettait dans un film ou un roman, les gens diraient vous foutez de moi, utilisez le montage, quoi, coupez ça, etc. Quoi. C'est vrai que. Non, toi, tu aimes quand.
Moi, j'aime bien prendre mon temps, et etc. Et puis, j'aime bien les grosses sagas à 3000 pages. Mais
Oui, alors c'est vrai qu'on peut se dire qu'effectivement, Georges Martin peut-être.
Pas forcément lui, mais oui, on n'est pas obligé de jouer Amélie Nothomb RPG en 60 pages. Quoi. Enfin,
c'est ça que je veux dire. Question n'est pas forcément de jouer Amélie Nothomb. Alors après, c'est peut-être le cas, par contre, du mouvement forgien. Il y a un peu de ça aussi. Il y a un peu du genre, on en a marre de vos histoires d'aventure sur 6000 pages. Nous, on veut un roman, enfin, on va dire, on veut une création un peu plus intellectuelle, plus recherchée, etc. Mais même sans aller jusque-là, c'est vrai que. Voilà, on n'obéit pas forcément tout à fait aux mêmes logiques, même si effectivement on peut quand même rapprocher un moment ou un autre les deux tendances.